panorama économique.
Très heureuse de vous retrouver pour cette émission Panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Au sommaire de cette émission, les entreprises américaines utilisant l'or, le tantal, le tungstène et l'étain des francs d'ici 2014, clairement indiqué l'origine de ces minéraux qu'ils utilisent. La Security and Exchange Commission a pris la décision. Et puis c'est tenu cette semaine à Kinshasa, les assises nationales sur le climat des affaires. Nous y reviendrons dans cette émission. L'exploitation artisanale pratiquée aujourd'hui par les entreprises est une violation du code forestier. Les ONG du réseau Ressources Naturelles ont organisé mercredi à Kinshasa une journée de réflexion sur ce code de 10 ans après sa promulgation. Panorama économique, nous recevrons pour analyser et commenter cette rétrospective de l'actualité Franck Fouamba. Il est expert minier, journaliste et propriétaire du magazine Mining News Magazine. À la présentation de cette émission, Jocelyne Moussa Opondé, qui la co-présente avec Agathe Pona Elema. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission.
Panorama économique, le dossier.
Premier dossier de la semaine, la Security and Exchange Commission, SEC en sigle, a publié la semaine dernière une règle pour exiger aux entreprises américaines qui utilisent pour la fabrication de leurs produits le tungstène, le tantal, l'or et l'étain d'assurer et de rendre public l'origine de ces minerais.
Notons d'abord, Jocelyne, que la SEC est l'organe qui régule aux États-Unis les marchés financiers et il s'agit là d'une décision qui met en application la disposition 1502 de la loi Dodd-Frank sur les minerais de conflit. Plus de 1000 entreprises américaines spécialisées dans la fabrication des téléphones, ordinateurs, dans la joaillerie, dans l'aviation et bien d'autres sont concernées par cette décision. Pour les miniers congolais, cette disposition, la 1502 de la loi Dodd-Frank, a porté préjudice aux activités minières de l'Est de la RDC. On écoute à ce sujet John Cagnoni, vice-président de la Chambre des mines dans la filière sanifère.
Nous avions déjà pris contact avec plusieurs reprises à travers la Fédération des entreprises du Congo que je représente, du moins pour la filière stanifère. Et nous leur avions dit en son temps que leur loi nous posait problème. Quel était le problème? Si l'esprit de la loi en soi était à louer, un esprit noble, c'était ces mesures d'application qui tombaient de manière subite. Et pour votre information, depuis déjà le 1er avril de l'année passée, nous vivons une situation d'embargo de fait du fait de cette loi américaine qui a poussé les consommateurs américains de se désengager de notre pays et tant qu'on n'avait pas encore mis en place des mécanismes dits de diligence raisonnable. Donc voilà un peu en gros. Alors qu'avec l'appui de notre ministère des tutelles, le ministère des mines, nous avions déjà assaini le secteur sur trois volets. La traçabilité des minerais, la diligence raisonnable et la certification régionale. Cette loi est venue pratiquement en porte-à-faux et a coupé toutes ces initiatives et les a remises en cause. D'autant plus qu'à travers l'OCDE, nous étions déjà engagés à discuter avec toutes les parties prenantes, y compris les États-Unis d'Amérique.
Donc, selon vous, cette disposition est tombée vraiment mal à propos alors que le gouvernement congolais et vous, ses partenaires, vous étiez déjà en plein dans le processus de la traçabilité.
Ah oui, madame, au niveau du Katanga, nous sommes déjà très en avance. Il y a déjà une initiative de la traçabilité qui a été mise en place par l'industrie de l'État, qui fait quand même que les opérateurs économiques qui sont établis au Katanga aient toujours accès au marché international. Et le gouvernement a assaini à travers beaucoup des dispositions, surtout sur le plan légal, pour voir un peu comment est-ce que le secteur pouvait aller de l'avant. Nous nous sommes engagés surtout à adopter les guides de dirigeance raisonnable de l'OCDE, qui n'est pas seulement de l'OCDE, qui est aussi celui de Nations Unies, qui est aussi celui de la CIRGEL. Et nous avions déjà adopté pratiquement la réponse au concept dit des minerais de conflit. Donc cette loi américaine, elle concerne certes les opérateurs américains et ceux qui sont listés à la bourse des États-Unis, mais avec comme impact négatif sur pratiquement toute la partie orientale de notre pays. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation d'embargo de fait avec des conséquences fâcheuses sur la vie des milliers de Congolais qui dépendaient de cette activité-là, avec des conséquences fâcheuses aussi sur l'assiette fiscale de l'État, parce que nous payons au Nord Kivu plus de 40% à rien que notre secteur.
Mais est-ce que actuellement, avec la situation de guerre qui prévaut dans la partie est du pays, tout le travail que vous avez fait en amont ne tombe pas un peu caduque?
Ben écoutez, notre position est très claire. Si nous devons respecter scrupuleusement les guides de diligence raisonnable qui a été adopté par notre gouvernement aussi, dès qu'il y a un groupe armé qui contrôle n'importe lequel des sites, nous nous désengageons. Nous ne pouvons pas nous approvisionner dans des zones qui sont sous contrôle des groupes armés. Et alors, si par malheur il arrivait que des groupes armés qui pullulent ici dans la partie orientale contrôlent des sites miniers, nous nous désengageons et nous n'achetons pas de là. Donc, l'option a déjà été très claire et nous le faisons étroitement avec le gouvernement. Je peux vous dire, par exemple, que nous nous étions désengagés du territoire de Walikale parce qu'il y avait un groupe Maïmaï qui est en train de percevoir des taxes illégales là-bas. Donc, nous travaillons étroitement avec notre gouvernement selon un standard internationalement reconnu et qui est respecté scrupuleusement par tous les acteurs, y compris nous-mêmes les opérateurs économiques.
Mais est-ce qu'on peut dire, avec le travail que vous avez donc fait, les minerais congolais, les minerais qui sortent, en tout cas par votre canal, sont des minerais propres?
Aujourd'hui, il n'y a aucun opérateur économique qui peut oser sortir un seul kilo s'il n'a pas fait frauduleusement du Congo, s'il n'a pas respecté les critères qui sont établis dans les guides de diligence raisonnable. Quoi. C'est une obligation qui est devenue même une obligation légale pour tous les opérateurs économiques congolais.
Voilà, vous l'avez compris, John Kanyuni était interrogé par Agathe Mpona Elema. Je l'annonçais au début de cette émission, nous recevons pour analyser et commenter l'actualité économique Franck Fouamba, expert minier, journaliste et propriétaire du magazine Mining News Magazine. Monsieur Fouamba, bonjour.
Madame, merci de m'avoir invité sur Radio Okapi.
Une réaction par rapport à cette information, à cette décision de la SEC et aussi par rapport à la réaction des miniers.
Merci. Il faut dire que par rapport à la réaction de la SEC, ça fait plus de 20 mois que les mesures de la SEC qui devaient accompagner, qui sont des mesures à l'application de la loi d'Outre-Franc et principalement de la section 1504 devaient être prises. Tout le monde les attendait. Et que les mesures soient venues, nous les saluons. Bien que les mesures aient certaines faiblesses que nous nous trouvons encore au niveau des entreprises américaines. Mais la réaction de John Kanyuni, c'est une réaction qui l'engage et qui engage la SEC, mais qui n'engage pas toute la communauté congolaise. Les minerais du Katanga ne sont pas sous embargo. Il y a MMR avec les compagnies américaines, dont Motorola, HP et les autres, sont même parvenus à lancer ce qu'on appelle la chaîne de l'espérance. Parce que les membres du Congrès américain, du gouvernement américain, avec l'USAID, avec les entreprises, sont allés voir ce que MMR fait. Et MMR aujourd'hui, ces minerais sont tracés à partir du puits jusqu'au niveau de la consommation. C'est ce que l'on veut pour l'Est. Vous savez, quand on a pris la loi d'Outre-Franc, l'opinion américaine a voulu préserver des millions de gens qui meurent parce qu'il y a des gens qui veulent s'enrichir sur les sangs des Congolais. Madame, mais le même système que John évoque pour le Katanga, le même système a été envoyé au Kivu. Le même système n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'au Kivu, il faut dire que les opérateurs miniers ne jouent pas franc jeu. Il y a eu des fausses étiquettes qui ont été piratées, qui n'étaient pas les étiquettes de la RDC.
Les miniers de l'Est n'ont qu'à se mettre en ordre pour ne pas voir, leurs produits frappés d'embargo. Et nous allons passer tout de suite au deuxième dossier de la semaine. Il s'est tenu du 27 au 29 août à Kinshasa, les assises nationales sur le climat des affaires.
Ce forum avait pour objectif principal de relancer la feuille de route sur les réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires. Plusieurs recommandations ont bien sûr été formulées. Berry Louchaka.
Ces recommandations se sont plus basées sur le rapport Doing Business de la Banque mondiale, notamment la création d'entreprises et le commerce transfrontalier. Les participants à ces assises, venus du secteur public, du secteur privé et des structures partenaires de la RDC au développement, ont émis, entre autres, les vœux de voir revu à la baisse le coût global des formalités de création d'une entreprise, soit un montant ne dépassant pas les $150. Pour le commerce transfrontalier, ils ont souhaité que soit consolidée toute perception connexe opérée à l'occasion de l'importation et de l'exportation en une seule, le plafonner et le répartir entre les différents bénéficiaires selon une clé définie et aussi que soient supprimées les taxes redondantes. Quant aux autres indicateurs, comme l'accès au financement, les participants à ces assises ont suggéré la création d'une banque de développement et des crédits pour financer les affaires à des taux raisonnables, la mise en place d'un fonds garanti pour les PME. L'accès à l'électricité est aussi l'un des indicateurs du rapport Doing Business et il a été recommandé aux décideurs l'adoption et la promulgation des textes sur la production, la distribution et la commercialisation du courant. Toutes ces recommandations seront validées par les comités de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires pour le présenter par la suite au gouvernement. Le ministère du Plan qui préside cette cellule rassure que tout le mois de septembre constituera le mois de validation pour faire en sorte que les mesures soient prises dans un proche avenir afin d'assainir le climat des affaires en RDC.
Voilà, merci Berry Franck Laluchaka. Franck Fouamba, vous êtes notre invité. Que pensez-vous de toutes ces discussions, ces réflexions pour pouvoir arriver à assainir le climat, l'environnement des affaires en RDC?
Merci madame. Je sais que le dernier forum ou les dernières assises ont fait 70 recommandations au gouvernement congolais. Je pense que c'est une bonne chose de faire des recommandations, mais c'est aussi une bonne chose d'accompagner la RDC. Parce que on ne doit pas se leurrer ou oublier, madame, la RDC est un pays post-conflit, qui est en train de se ressaisir, bien qu'il va encore être déstabilisé par des voisins qui ne veulent pas que le géant puisse se tenir debout. Je pense que les partenaires doivent accompagner. C'est bien, c'est une bonne chose effectivement qu'on on facilite la création des entreprises, surtout des petites et des moyennes entreprises. Tous les pays du monde, aujourd'hui, vous verrez que l'économie des États-Unis, l'économie de la Grande-Bretagne, tous les pays se développent grâce aux petites et moyennes entreprises. Et là, on doit en tenir compte. Et je pense que souvent nous avons des bonnes lois déjà, mais je pense qu'on doit plutôt les appliquer.
Voilà. 10 ans après la promulgation du code forestier, les ONG qui travaillent dans le secteur de l'environnement félicitent l'arsenal juridique congolais, mais déplorent sa non-application.
Regroupés au sein du réseau Ressources naturelles et les ONG environnementales ont organisé mercredi dernier à Kinshasa une journée de réflexion sur ce code. Selon Jean-Marie Bolika, chargé le projet au Fonds mondial pour la nature, à cause de la faiblesse dans l'application de ce code, actuellement, l'exploitation artisanale prédomine sur l'exploitation industrielle. Et on l'écoute au micro de Jeff Ngoé.
L'exploitation artisanale n'est pas interdite. La production artisanale, elle est prévue pour la consommation locale. Elle ne peut pas servir d'exportation. Donc, le bois qui provient de l'exploitation artisanale, elle est pour la consommation locale. Par contre, il ne peut détenir le permis de coupe artisanale qu'une personne physique. Par contre, nous remarquons aujourd'hui que les personnes morales, et voire les SPRL, les entreprises, détiennent des permis de coupe artisanale et ils coupent même des essences interdites. Donc, nous disons que là, ça ne marche pas.
Et quel dividende économique compétirait de ces codes forestiers?
Oui, le dividende économique, c'est que si la loi était respectée, aujourd'hui, on allait encadrer les industriels du bois parce qu'ils sont connus. Ils ont signé les clauses sociales de cahier de charges avec les communautés. Ils font l'aménagement forestier. Ça veut dire qu'à travers les clauses sociales de cahier de charges, ces entreprises-là contribuent à la construction des infrastructures scolaires, hospitalières, et donnent et accordent des facilités de transport aux populations. Là, c'est un aspect positif. Mais lorsque l'exploitation artisanale prend de l'ampleur, ces exploitants artisanaux-là ne font pas l'aménagement forestier, ne signent pas de cahier de charges, ne payent pas les taxes, mais ils vont jusqu'à exporter même le bois qui sort de l'exploitation artisanale. Donc l'exploitation artisanale aujourd'hui pratiquée par les entreprises, c'est une violation de la loi. C'est la faiblesse du contrôle forestier qui ne permet pas à ce que l'État congolais puisse traquer tout contrevenant qui viole la loi forestière.
Voilà, on reste toujours dans le domaine des ressources naturelles. On voit qu'il y a un peu de désordre un peu partout, hein, Franck Fouamba.
Vous savez le pomme que nous avons. Nous avons un très bon code minier, nous avons un bon code forestier. Le pomme, c'est un pomme d'application. Et comme j'avais dit là, moi j'ai dit toujours, j'ai toujours un principe. Je suis contre l'artisanat. Dans le forestier, je suis contre l'artisanat dans le minier aujourd'hui. Regardez Chikapa, regardez Kananga, regardez Mbushimayi. Allez à Mississi, allez à Lulimba, allez partout, on a fait de l'artisanat et du diamant et de l'or. Il n'y a rien. L'artisanat ne peut pas développer. Je veux que aujourd'hui on puisse miser sur l'industrialisation. Et c'est là que le ministre le ministre ayant en charge de la forêt, le ministre de l'Environnement, doit se mettre et réunir les gens et chercher à faire appliquer la loi. Je suis pas d'accord que quelqu'un se dise opérateur forestier pour aller couper 3 brumes de bois et vouloir les exploiter frauduleusement. Mm-hmm. Je veux bien qu'il y ait des exploitants forestiers. Vous savez, madame, au début des années 2000, nous avons eu au Katanga l'euphorie, quand le cobalt faisait, tout le monde était le cobalt. On a vu les Chinois, les Indiens intervenir. Mais quand il y a eu le nouveau code minier, au Katanga à l'époque, quand vous allez au registre de commerce, au titulaire de commerce au Katanga, il y avait plus de 300 entreprises minières qui étaient enregistrées. Malé aujourd'hui au Katanga, combien d'entreprises fonctionnent? Aujourd'hui, nous avons Freeport-McMoRan, nous avons le groupe Glencore avec Nicasse et les autres, nous avons NFC, nous avons le groupe Somica, il y a le groupe Bazano, il y a Chemaf. Donc, aujourd'hui, on a à peu près, on peut compter du pouce de doigt, on peut compter à peu près 10 entreprises. C'est la même chose avec le secteur forestier. Nous avons 62% du territoire qui est occupé par le bois, par la forêt. C'est un secteur qu'on peut rentabiliser, gagner beaucoup trop d'argent comme le Canada. Mais comment? En l'industrialisant.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Voilà les autres informations de la semaine. Une nouvelle compagnie aérienne dans les airs congolais.
C'est la compagnie Turkish Airlines qui vient de lancer ses vols en RDC. Elle aura dans un premier temps 4 vols par semaine, mais compte aller jusqu'à 7 vols. Beril Uchaka.
C'est depuis lundi soir que le Boeing 737 de la compagnie Turkish Airlines a foulé le sol congolais. La compagnie d'aviation turque vient de lancer officiellement ses vols en RDC. Kinshasa est donc la 200e destination de cette compagnie dans le monde. La deuxième meilleure compagnie aérienne d'Europe et 7e dans le monde dispose de 200 aéronefs âgés en moyenne de 6 ans. Et pour ses vols sur Kinshasa, Turkish Airlines vient d'acquérir un nouveau Boeing 737. Il faut dire qu'actuellement, beaucoup d'hommes d'affaires congolais ont choisi comme destination la Turquie pour se ravitailler en produits de diverses natures. Selon l'ambassadeur turc en RDC, une centaine des visas sont délivrés mensuellement aux commerçants congolais. Et les échanges commerciaux entre les deux pays sont évalués pour 2011 à 50 millions de dollars américains, soit 30 millions la valeur des produits turcs vers la RDC et 20 millions de la RDC vers la Turquie. Pour le secrétaire général au transport en RDC, la création de cette ligne directe entre la RDC et la Turquie favorisera la croissance des relations commerciales et économiques entre les deux pays. Turkish Airlines vend actuellement des billets Kinshasa-Istanbul-Kinshasa à un prix promotionnel de 585 dollars américains, toutes taxes comprises.
Voilà, Franck Fouamba, vous venez de suivre cet élément. Que pensez-vous des mouvements des hommes d'affaires congolais à travers le monde? On sait très bien que l'économie du Congo est très, très tournée vers l'extérieur.
Merci, madame. Le mouvement des hommes d'affaires congolais vers l'extérieur, ça montre que le Congo est en train de redémarrer. Quand il y a les entreprises qui viennent, comme Turkish Airlines et les autres, ça montre que il y a de l'envol quand même. Et ce que je voulais dire, madame, à propos des compagnies d'aviation, c'est qu'on doit sentir qu'il y a multiplié des compagnies maintenant. Parce que c'est anormal quand même que les billets coûtent ce qu'ils coûtent au Congo. Mm-hmm. Vous savez, vous prenez Londres, Barcelone ou Londres-Madrid, vous payez à peu près 100 ou 150 euros. Et quand vous faites la même distance, vous prenez Kinshasa-Lubumbashi, ça vous coûte dans les 450 euros. C'est ça, oui, normal. Oui. Les billets sont trop chers pour rien. Et là, je salue les Turcs qui viennent, mais je veux aussi que le gouvernement, le ministère du Transport précisément, que le ministre prenne la tarification en considération. Les prix doivent plutôt baisser sur les vols domestiques. Prenez Johannesburg-Cape Town, 2000 km. Vous avez un billet, quand ce ne sont pas les heures de pointe, vous avez un billet à 100-120 dollars à leur retour. Mm-hmm. Et vous prenez Kinshasa-Lubumbashi, quand je prends l'avion sur Kinshasa-Lubumbashi, je dois payer 500-600 dollars. Mm-hmm. C'est normal. Parce que les mêmes compagnies d'aviation, quand elles opèrent ailleurs, elles font payer moins cher. Mais quand elles viennent chez nous, elles mettent les enchères. Mmh. Je pense qu'on doit réguler, on doit beaucoup plus serrer.
Turkish Airlines compte faire du 7 sur 7. Les autres entreprises le font déjà. Mais vous ne trouvez pas que cela ne laisse pas beaucoup de chance à la renaissance de la compagnie nationale?
Ah, là c'est une autre chose. Je suis très content que le chef de l'État ait limogé les gens qui sont à la compagnie nationale, les gens de là, parce qu'ils n'ont eu aucune initiative. Parce que s'ils avaient, ils avaient l'initiative, ils se seraient arrangés avec le Parlement au cas où le gouvernement ne bougeait pas. Ils se seraient arrangés avec le Parlement pour que nous ayons une compagnie quand même qui ait deux, trois avions. Madame, prenons par exemple l'Office de route. N'est-ce pas que l'Office de route a des programmes avec la Banque mondiale pour la construction de route en RDC? Et vous êtes sûr que si l'AC, il y avait un PDG, un comité de gestion, qui présente un plan responsable au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Vous pensez que le gouvernement ne va pas prendre ce plan-là et trouver des bailleurs de fonds? Je dis que toutes les compagnies au monde aujourd'hui, prenez Bruxelles que vous avez évoqué, mais il y a Lufthansa dedans. Mm-hmm. Prenez Air France, ils sont avec KLM. Aujourd'hui, personne ne fait des choses seul. L'AC ne peut pas faire des choses seul.
Panorama économique, matière première.
Matière première, en Ituri, des cargaisons de bois quittent chaque jour frauduleusement la province orientale pour le Nord Kivu en direction de l'Ouganda. Ce constat a été fait mardi par le ministre provincial de l'Environnement, Faustin Lokinda, qui est en mission dans le territoire de Mambasa. Il a déclaré que cette fraude est favorisée par des militaires FRDC basés au Nord Kivu. Faustin Lokinda explique comment se fait cette fraude, ses conséquences économiques et les dispositions prises pour l'arrêter au téléphone de Isaac Remoyope.
En Ituri, précisément dans le territoire de Mambasa et Irumu, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la fraude de bois. La fraude est organisée avec les services militaires, c'est-à-dire les FARDC, qui accompagnent les exploitants artisanaux, qui amènent les armes militaires pour faire passer au niveau des barrières les cargaisons de bois qu'on évacue vers le nord, qui vous pour vendre à Kasindi, à la frontière avec l'Ouganda.
Et ce constat, vous l'avez fait où précisément?
Dans les deux cas, c'est à Luna, à Bela, c'est aussi la même chose. Au niveau de Bela, il y a eu des réactions des communautés, à tel point que la société n'aurait été obligée de céder une partie des concessions, des blocs A à la communauté pour la survie. Mais malheureusement, c'est devenu un domaine d'exploitation des militaires où sont des commerçants frauduleux qui préfèrent évacuer grâce aux militaires.
C'est que les militaires aussi sont impliqués dans l'exploitation frauduleuse des bois.
Ils sont là comme ça, mais implication comme un propriétaire, non, mais plutôt comme un facilitateur pour contourner les taxes. Quelqu'un qui a des cargaisons de bois, si la taxe était de s'élever à 200-300 $, il paie $50 à un militaire et puis on évacue, on escorte sous l'armée militaire et puis à ce moment on ne sera pas distingué à qui ça appartient et toutes les barrières sont ouvertes, surtout la pression des armes.
Vous avez essayé un peu de déterminer la quantité de bois qui sort frauduleusement de la province orientale?
Il est difficile de déterminer la quantité à ce sujet. Donc on a seulement constaté que certainement il y a eu vraiment une fraude massive et qu'autant de véhicules passent par jour, 2, 3, 4, 5-10 véhicules par jour, avec les conteneurs et avec les véhicules remorques. Alors on ne saura pas avoir les statistiques parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de percevoir les taxes pour taxer.
Mais vous ne pensez pas qu'il y a aussi la complicité des agents, par exemple des services de l'environnement et même d'autres services dans ces cas de fraude?
À quelques raisons, oui, mais pas toujours vrai, parce que devant les militaires, les services n'ont pas de mots et les services, les membres des acteurs qui sont en train de travailler dans les services préfèrent préserver leur vie que d'être abattus par des armes pour le cas de fraude qui s'effectue sous les Kalachnikov, les MAG, les mitrailles. Alors on a peur et les gens laissent passer les bois.
Et sur place là, est-ce que vous avez pris certaines mesures pour arrêter cette hémorragie?
Directement non, parce que je dois rentrer à Kisangani au secrétaire de la province orientale pour prendre des mesures conséquentes. Je vais en informer au conseil des ministres et le gouvernement doit prendre une décision, soit de dépêcher les militaires de la province orientale pour barricader l'action militaire du Nord Kivu sur notre province, ou soit on va chercher notre méthode qu'il faut mettre en place pour qu'on arrête cette hémorragie.
Est-ce qu'il y a d'autres dispositions pour éviter ces cas de fraude?
Oui, de manière légale, nous sommes en train de faire les parcs à bois à Komanda et les parcs à bois à Bela. Et aussi, nous sommes en train de sensibiliser tous les exploitants artisanaux qui, cette fois-ci, Chacun doit avoir son dossier. Ces gens-là doivent être identifiés pour que nous puissions avoir des références sur lesquelles nous devons nous baser pour taxer certaines personnes qui sont en train de sortir chez nous. Et c'est pas qu'à boîte, certainement, d'une mesure d'encadrement de l'exportation des bois qui est en train de quitter la province vers l'est de la République.
Un commentaire par rapport à cette information?
Ce que je dirais, c'est que, vous savez, madame, la zone de l'Ituri, le Nord Kivu, la province orientale, Nord Kivu, tout ça, d'abord, c'est une zone à problème. C'est une zone où il y a beaucoup trop de groupes armés. Et tout celui qui a l'uniforme, je suis en train de parler généralement, parce que vous savez, je me réfère quand même à ce que le chef de l'État avait dit dernièrement. Vous vous souvenez, lors de son dernier entretien à une session de clôture, il avait interpellé les militaires. Il avait dit qu'ils doivent choisir être opérateur minier ou être officier de l'armée. Et je pense que le message était très fort. Alors, une zone comme celle-là, on ne peut pas dire que quand quelqu'un alarme, ça c'est mon, je suis en train de faire mon analyse personnelle, et ça m'engage. Quand quelqu'un alarme ou a l'uniforme, on ne peut pas directement dire que c'est quelqu'un de FARDC. Parce que, par exemple, c'est une zone qui est trop mouvementée, une zone en ébullition, une zone où il y a trop d'armes qui circulent. Du reste, je pense que ce n'est pas encouragé que les gens utilisent les armes. C'est la même chose avec les mines. Que les gens utilisent les armes pour exploiter la forêt frauduleusement, c'est pas encouragé. Mm-hmm. Mais mettre ça sur les dos des FADC, je pense qu'on doit y aller avec beaucoup de réserves parce que vous savez vous-même, et la MONUSCO peut bien aussi l'attester, qu'il y a trop de groupes armés, tout le monde qui a l'uniforme des FADC dedans et qui a les armes n'est pas nécessairement FADC.
Voilà.
Je pense que toutes proportions gardées, ce qu'il a dit, ça l'engage, les souterrains, mais généralement, j'ai dit aussi que c'est difficile, parce que nous zone où il y a trop de rebelles, il y a trop de rebelles de beaucoup de pays qui sont en train de jouer sur notre territoire, alors ne mettons pas tout ça sur le dos des FADC.
C'est sur ce commentaire que nous mettons fin à ce panorama économique de cette semaine. Merci à vous, Franck Fouamba, d'avoir accepté de nous accorder un peu de votre temps. Je signale que vous interveniez au téléphone à partir de Johannesburg en Afrique du Sud. Et je rappelle que vous êtes expert minier, journaliste et propriétaire du Mining News Magazine. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Le panorama économique prend donc fin. Rendez-vous samedi prochain, 12h30 pour Panorama. Et déjà lundi, ça sera Écho d'économie à 18h15, heure de Kinshasa, sur les antennes de Radio Okapi. Bon week-end à vous tous.